les émissions des quartiers.
Pour un outil dédié aux habitants.
On m'a formé comme journaliste.
La radio part à votre rencontre.
À Ivry, il se passe des choses qui sont positives. Et juste, c'est juste pour en parler. Une radio, je pense que ça doit servir à ça.
Un espace d'expression complètement libre où chacun peut intervenir.
C'est aussi des rencontres, des échanges avec les jeunes, les moins jeunes.
Il faut parler ensemble, quoi. Faut y aller, faut dire toutes ces choses. C'est peut-être un peu ridicule, mais c'est ce qui fait la vie ensemble.
Les émissions des quartiers
sur Principe Actif.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des émissions des quartiers. Aujourd'hui, nous avons été promener notre studio mobile à Verneuil-sur-Avre et plus précisément, au CEM de Verneuil-sur-Avre. Alors le CEM, c'est un centre d'éducation motrice qui reçoit 9 usagers actuellement. Et je crois qu'on a quasiment... Mais on a une bonne partie en tout cas des usagers qui sont autour de nous. Alors l'éducation à la motricité, ce sont des personnes porteurs de handicap avec l'objectif du CEM, c'est d'amener à l'autonomie ou en tout cas un maximum d'autonomie, notamment à travers l'insertion sociale et professionnelle. Durant l'heure qui vient devant nous, nous aurons l'occasion d'échanger avec les professionnels qui interviennent dans ce CEM, avec les usagers également de ce CEM et les intervenants extérieurs, notamment on a le professeur de théâtre qui est avec nous. Nous y reviendrons dans un tout petit instant. Pour mettre en onde cette émission, nous avons le meilleur des réalisateurs à nos côtés, en la personne de Monsieur Pignon.
J'ai l'intention de tenir l'antenne 24 heures sur 24 jusqu'à ma mort. Et puis même encore après s'il le faut.
Mais tu crois pas que ça pourrait peut-être finir par être légèrement monotone comme expérience pour l'auditeur ?
Principe actif, 102.4 FM.
Et nous sommes donc en direct, en live et quasiment en public. Hein. Nous sommes une douzaine dans cette salle pour cette heure d'émission autour du centre d'éducation motrice de Verneuil-sur-Avre. Et je vous propose tout de suite, sans plus attendre, d'entendre la voix de la directrice. Ah oui, parce que alors ce CEM, forcément, c'est l'antenne de Verneuil sur laquelle nous sommes aujourd'hui, mais ça dépend de Garches, il y a un CEM également sur Garches. Et la directrice, Julie Durand, a bien voulu répondre à nos questions. Ça va vous faire plaisir, Monsieur Pignon, parce qu'en fait, j'ai posé mon téléphone sur mon ordinateur et c'est un enregistrement plein d'interférences. Vous allez voir.
Notre CEM est un IEM, Institut d'éducation motrice, établissement médico-social qui accueille des jeunes en situation de handicap moteur qui ont tous entre 14 et 25 ans.
Sur un centre d'éducation motrice, est-ce que l'objectif est d'être dans le progrès sur la motricité ou c'est plutôt trouver l'adaptation du monde ordinaire pour votre public ?
On n'est pas forcément dans le progrès et dans la rééducation pure, on est parfois dans l'entretien. Et dans, effectivement, les recherches d'adaptation et de moyens de compensation du handicap. Mais on est surtout sur un accompagnement global. C'est pour ça que le terme médico-social a tout son sens. C'est un accompagnement médical, paramédical et socio-éducatif dans cette période qui constitue le passage à l'âge adulte.
Du coup, votre public, j'imagine, doit bénéficier de différents types d'interventions, différents types de métiers qui rentrent dans cet accompagnement.
Tout à fait. Nous avons une équipe de médecins spécialisés en médecine physique et de réadaptation, en neurologie, en médecine générale également, des interventions de spécialistes ponctuellement, en ORL, cardio et psychiatre. Une équipe de kinésithérapeutes, d'ergothérapeutes, d'orthophonistes, accompagnée d'une psychomotricienne, d'une psychologue, d'un diététicien, d'une équipe infirmière et soignante et d'éducateurs.
Au-delà de ces métiers très clairement très spécifiques sur l'éducation motrice notamment, sujet à travers la rencontre que nous avons eue sur l'antenne du CEM à Verneuil-sur-Avre, entendu parler d'ateliers autour du théâtre, de balnéothérapie, des choses, j'aurais envie de dire, qui seraient autour de l'outil de loisir au service de l'éducatif. Est-ce que ça, c'est une pratique aussi particulière?
Oui, c'est une pratique spécifique, mais l'aspect thérapeutique n'est jamais bien loin et on peut partir de quelque chose de ludique, comme un atelier théâtre ou un atelier photo, par exemple, pour travailler sur l'estime de soi, l'image de soi et pour arriver à un objectif thérapeutique bien précis. C'est souvent une accroche pour pouvoir proposer des ateliers qui sont un peu en dehors de la rééducation classique.
C'est également me proposer des métiers, un avenir, je dirais, le plus ordinaire possible à des publics qui, aujourd'hui, ont besoin peut-être d'accompagnement plus spécifique. L'objectif final, c'est d'arriver à une situation la plus ordinaire possible
je ne dirais pas une situation la plus ordinaire possible, mais plutôt une situation la plus autonome possible. On travaille beaucoup sur l'autonomie dans leur vie d'adulte, et c'est ça qui est très spécifique dans l'accompagnement. On sait bien que certains n'auront pas forcément une vie ordinaire, au sens intégration dans la société sans aménagement particulier, mais on cherche la plus grande autonomie.
Julie Durand, directrice du CEM, qui répondait à nos questions sur l'organisation de cette structure CEM. CEM, c'est Centre d'éducation motrice. Voilà, c'est ça. Je cherche mes mots. Pourquoi je veux mettre motricité à la fin? Motrice, voilà. Et nous sommes donc avec François, chef de service. Bonjour à vous. Alors vous êtes chef de service sur l'antenne de Verneuil-sur-Avre.
Tout à fait, mais avant de parler de nous, je souhaitais avant tout de parler de vous et de votre réponse à notre possibilité de collaboration dans le futur. Et vous avez répondu présent immédiatement sur l'idée d'une collaboration dans la thématique de la radio et d'utiliser éventuellement ce levier pour travailler autour de la communication, de la relation aux autres. C'est tout à fait dans nos accompagnements que l'on propose aux différents résidents. Alors, je ne vais pas les appeler les usagers parce qu'ils ont horreur que je les appelle usagers, parce qu'on n'est pas usagers, on est encore bien en vie et qu'on n'est pas encore usagers. Donc, juste revenir peut-être sur l'entité SEM. L'entité SEM, c'est effectivement la globalité de l'établissement. Et nous, notre service, c'est un DAI, c'est un dispositif d'accompagnement individualisé qui se fait donc sur Verneuil, qui est la base du projet, et aujourd'hui avec une extension sur Garges dans le 92. Donc aujourd'hui, on peut accueillir 24 élèves, usagers, résidents, peu importe l'appellation, l'essentiel c'est qu'ils existent et qu'ils puissent aller vers le monde des adultes. C'est notre perspective. À chaque accompagnement, on cherche à accompagner chacun sur cette situation fin de scolarité et monde de l'adulte. Et donc, dans cette perspective, on essaye au mieux avec chacun d'avoir un projet cohérent, d'une scolarité qui s'est terminée. Et donc, aujourd'hui, on est sur une autre réalité, c'est le monde des adultes, avec tout ce que ça peut avoir comme contrainte.
Alors c'est déjà dans le milieu ordinaire, c'est un passage qui peut être plutôt difficile, voire douloureux en fonction des parcours. J'imagine qu'avec le handicap, ça rajoute quand même une couche de difficulté. Non, comment est-ce qu'on aborde très très concrètement cette entrée dans le monde adulte, dans le monde professionnel, dans l'après-école?
Alors il est vrai que au fond notre moteur lors de la scolarité, c'est envisager son avenir en général, il passe forcément par l'intégration professionnelle, parce que c'est un des leviers par rapport à l'intégration. On considère aujourd'hui que réussir une intégration, c'est de parler de l'activité professionnelle. Il est vrai que pour certains de nos résidents, cette insertion professionnelle sera beaucoup plus compliquée, au moins dans un premier temps. Et donc, on parle pour certains plutôt d'insertion sociale. Déjà, trouver sa place dans la société, y trouver du sens, c'est important, de se lever le matin et avoir des perspectives dans la journée, d'avoir des projets, d'avoir des envies, de l'enthousiasme pour des choses que l'on va mettre en place. Et donc, notre mission, c'est donner de l'appétence aux choses. Et aujourd'hui, votre place ici, c'est de justement les ouvertures vers l'extérieur. Et c'est ce que l'on prône à Verneuil, et plus particulièrement sur le dispositif, c'est l'ouverture aux autres. Je crois qu'on ne vit pas bien seul, on a besoin des autres, et à ce point de vue, on essaye de collaborer à cette idée de vivre ensemble. La différence entre le dispositif de Garches et celui de Verneuil, c'est le système d'internat, puisque les jeunes qui sont accueillis ici sont accueillis du lundi jusqu'au vendredi, et donc le week-end, ils sont au retour au domicile. Parfois, restent ici pour des week-ends que l'on organise, mais la plupart du temps, ils vivent au domicile, et pendant les vacances scolaires, on a le même système, puisqu'ils retournent au domicile, et parfois même sur des contrées très lointaine, puisque je vois Gilles qui est tout près de moi et qui vit sur un territoire largement très lointain, puisque tu vis, Gilles ?
Je vis actuellement, je vivais avant Guyane et je suis venu pour mes études en métropole.
Donc vous voyez à quel point ce sont des jeunes qui peuvent être issus d'un territoire très lointain. Et justement, ils amènent aussi leur richesse par rapport à leur culture, par rapport à leur ouverture. Je regarde d'autres résidents qui sont issus aussi d'autres territoires. Guéda, Quentin, qui sont, voilà, qui ont Émilie, qui ont tous des origines différentes. Et justement, c'est ce...
religion. On a tous une origine différente.
Oui, c'est justement c'est cette richesse.
On essaie de se faire partager un peu... tout ce qu'on connaît de nos
origines,
de nos cultures, de nos savoirs.
Voilà, n'hésitez pas à vous emparer des micros et réglez-les pour être bien là. Je vois qu'il y en a qui sont installés un peu.
Émilie, n'hésitez pas à descendre ton micro.
Je voulais rebondir juste deux secondes. Vous évoquiez l'intégration par la profession, comme si c'était comme une espèce de norme finalement. Mais cette intégration par le social est tout aussi important déjà dans le milieu ordinaire. Et alors j'imagine que ça prend une part d'autant plus importante quand on est porteur de handicap, c'est concrètement l'intégration par le social. Alors vous évoquiez cette notion de s'ouvrir sur l'extérieur, mais comment elle se traduit en action, cette intégration par le social ?
Bien, on essaie pour chacun de leur donner des ouvertures. Et aujourd'hui, on a une richesse en France, c'est le milieu associatif. Et à Verneuil, on a aussi cette richesse. Et donc, on utilise ce levier comme moyen de leur montrer ce qui est possible dans le cadre de l'association. Ce que l'on peut porter, ce que l'on peut militer, et ce que la façon dont on peut agir, peu importe le niveau de handicap, on a tous sa place. Et une des intégrations sociales, c'est le milieu associatif. Alors bien sûr, ce n'est pas la seule, puisqu'on peut aussi participer à des actions culturelles, musicales, toutes formes au fond d'actions qui sont menées à l'extérieur, dans lesquelles on peut trouver sa place et amener sa propre richesse et sa propre expérience. Alors ici, forcément, on est simplement sur un schéma du territoire de Verneuil. Pour eux, forcément, que demain, la vie ne se fera pas à Verneuil. Ça sera forcément sur leur territoire à eux. La plupart, comme vous l'avez compris, viennent de territoires relativement lointains. Pour certains, viennent de l'Île-de-France. Donc, on essaye de reproduire ce qu'ils font ici, chez eux. Et donc, progressivement, lors de la fin de notre parcours, de notre accompagnement, on essaye progressivement de les inviter à participer à ce qui se fait socialement autour de leur domicile, pour qu'au fond, ce qu'ils ont acquis ici, ils puissent le reproduire à tout moment, à l'extérieur et sur d'autres territoires.
Qu'ils ont fait leur vie ici, parce que j'en ai rencontré, moi, des gens qui étaient à Paris, mais qu'après, qu'ils ont, par rapport à leur direction professionnelle, qui sont restés
c'est possible.
À Verneuil ou en Normandie.
On ne s'interdit rien, en fait. Oui. Tout à fait.
Ça dépend du projet de la personne.
Sur cette notion, alors Julie Durand, qu'on entendait en début d'émission, disait voilà, que c'est un encadrement de 15 à 25 ans. Au-delà des 25 ans, il y a forcément une sortie d'accompagnement.
Alors oui, parce qu'aujourd'hui, on a la chance, parce que ce n'était pas forcément possible il y a quelques temps. On a aujourd'hui un agrément qui nous autorise à accompagner des jeunes entre 14 et 25 ans. Puisque la plupart du temps, les accompagnements dans le médico-social s'interrompent à partir de 20 ans. Aujourd'hui, notre agrément nous permet de continuer cet accompagnement jusqu'à 25 ans, ce qui nous donne un peu plus de temps pour arriver à finaliser des projets, puisqu'on sait que même dans l'insertion en milieu protégé, dans le secteur protégé, il faut du temps. Il faut de la maturité, il faut acquérir des acquis, des apprentissages. Et puis, il y a aussi, et nous, on passe forcément par cette situation de la frustration, c'est-à-dire qu'on a rêvé très longtemps à travers une scolarité, d'une insertion, de projets professionnels, parfois qui était difficile à atteindre, et donc forcément qu'on ramène à chaque fois, nous, un peu plus de réalisme dans chaque projet. Donc forcément, ça passe par une situation de deuil, au fond, à ce que l'on a rêvé. Alors, il ne faut pas s'interdire de rêver, parce que ça fait partie des choses...
C'est un des moteurs, hein, d'ailleurs.
Oui, c'est un des moteurs. Il faut le conserver, ce rêve, mais on doit aussi, nous, amener ce réalisme pour que demain, il puisse raisonnablement intégrer une situation d'insertion, soit en secteur de travail, ou soit éventuellement au retour au domicile avec une vie sociale, ou éventuellement une vie en établissement spécialisé, type femme ou foyer.
Chacun, en tout cas, des résidents, quand il sera passé par le CM de Verneuil, aura eu un projet social, un projet professionnel, un projet, en tout cas, mener.
C'est ce qu'on aspire, hein, c'est ce que l'on accompagne. On met, au fond, toute notre énergie dans cet accompagnement. Alors, je rappelle bien que ce dispositif, aujourd'hui, il est élargi pas uniquement à Verneuil, mais aussi à Garches. Autrement, si je les oublie, ils me diront, vous nous avez ignorés. Non. Donc, ce dispositif, c'est sur les deux structures, Garches et Verneuil, mais on a le même moteur, c'est faire en sorte que l'on puisse, à l'issue du passage au niveau du dispositif, de finaliser un projet qui forcément se fera et qui pourra éventuellement évoluer dans le temps. Je prends l'exemple, par exemple, d'une jeune qui va intégrer dans quelques temps un ESAT. Peut-être que dans quelques années, elle nous rappellera en disant « aujourd'hui, je vis à tel endroit avec un travail en milieu ordinaire ». C'est possible, puisque certains jeunes nous rappellent en disant « mon projet de professionnel, mon projet de vie » à évoluer, c'est ce que l'on prône, hein, c'est que l'évolution se fait tout au long de son parcours de vie. Hein, il n'y a pas de finalité, l'essentiel, c'est de faire en sorte de pouvoir évoluer en fonction de ses capacités, de ses moyens et des opportunités qui nous sont données.
Pour rendre un petit peu tout ça plus concret sur le fonctionnement du CEM, j'ai envie d'interroger un petit peu les résidents pour que nous nous rendions compte un petit peu de ce qu'est une journée ordinaire au CEM. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors Gilles, vous êtes devant un micro, n'hésitez pas. Nous avons Diakoumba également à côté d'un micro, Émilie également à côté d'un micro. Nous avons également Quentin que nous allons équiper d'un micro. On va essayer de ne pas lui faire la blague du micro qui tombe, hein. On l'a gardé pour François, cette blague là, hein, bien entendu. À quoi ressemble une journée classique ici au CEM de Verneuil? À quelle heure commence la journée? Elle commence par quoi? Qu'est-ce qui s'y passe?
Eh bien, avant tout, la journée elle commence on se réveille pas à l'heure qu'on veut. On a des heures fixes, et avant tout ça dépend aussi des projets, parce qu'il y a des heures différentes. Nous, en fait, il y a certains jeunes qui font du conditionnement.
Ceux qui sont en projet professionnel.
Voilà.
Alors qu'est-ce que du conditionnement? Voilà, on a besoin d'avoir des explications, nous. Hein. Moi, j'étais pas là ce matin.
On travaille avec une entreprise.
ISPM, et ils nous demandent de préparer des kits pour faire des prélèvements d'huile.
En fait, le conditionnement, c'est la façon de ranger des objets. Des objets dans un carton, dans un conditionnant. Et là, nous, c'est des bouillottes, des seringues.
Des flexibles, etc.
Et ça, vous le faites dans l'entreprise. C'est-à-dire que vous partez d'ici
non.
Et vous...
C'est sur place.
On a
c'est
des commandes, ici. On le fait ici. On nous donne le matériel et après, nous, on le ramène.
C'est par exemple...
Bien dans le micro, par contre, pour le coup.
Il peut y avoir... une commande exceptionnelle par téléphone et on peut l'avoir la veille pour le lendemain, par exemple.
Ah oui, ça c'est terrible, quoi, c'est la veille pour le lendemain.
Oui, c'est
une spécialité.
Souvent, c'est le jeudi soir quand on va s'en aller le lendemain matin.
Et par exemple, on a différents kits de plusieurs sortes.
Alors là, par exemple, vous en avez fait ce matin, par exemple,
oui, on en a
conditionnement.
Fait.
Très, très concrètement, c'était quoi le conditionnement de ce matin?
À peu près comme tous les jours.
Oui, c'était quoi? C'était quoi comme produit? C'était quoi comme
préparation aussi.
Il y avait des colis à faire. Il y en avait 10, des stérides par 30. Et on doit mettre dans les cartons des bouillottes pour les envoyer, par exemple, au papillon blanc.
Ça, c'est nouveau, ça, par exemple.
Alors, clairement, vous avez bossé à combien ce matin sur le conditionnement?
Après, on a des emplois du temps différents parce que il faut savoir que comme on a un projet, il faut aussi garder des heures pour travailler dessus. Par exemple, il y en a qui vont avoir un temps avec leurs éducateurs référents pour travailler dessus. Et donc, il y en a qui vont être en conditionnement, il y en a qui vont être avec l'ergothérapeute, il y en a d'autres qui vont être avec leurs référents. Donc, on n'est pas forcément tout le temps tous en même temps en conditionnement.
C'est ça, ou bien il y en a des fois le mardi matin qui ont activité balnéothérapie avec un intervenant extérieur, un intervenant, oui.
Il y en a qui font aussi leur repas.
La fabrication du repas.
Oui, et on leur donne leur budget, ils font un menu et ils font leur repas. Il y a aussi un nouveau truc, c'est la semaine d'autonomie. C'est des semaines d'autonomie, c'est des personnes qui vont gérer toutes seules... toute leur journée, qui vont essayer de solliciter le moins possible une personne, une tierce personne, pour pouvoir se débrouiller, pour pouvoir savoir s'ils sont capables ou pas.
Ah, c'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des semaines où le programme ne vous est pas proposé, mais c'est à vous de le mettre en place, c'est ça ?
Oui, ou d'acheter sa propre nourriture, de faire son propre petit déjeuner, comme si on était à son appartement, quoi. Pour vraiment voir si on peut se débrouiller. Par exemple, il y a Sandrine, mais elle n'est pas là, donc...
Elle est cachée derrière. Ouais. Sandrine, rapprochez-vous éventuellement.
Il y a Quentin aussi qui l'a fait.
Alors Quentin, par exemple, vous, là, ces semaines d'autonomie, vous en avez déjà fait, c'est ça ?
Oui.
Alors, du coup, concrètement, c'est quoi ? C'est vous débrouiller toute la semaine à acheter, à gérer l'argent, à gérer la préparation ? Comment ça se passe ?
On doit faire les courses le lundi, mais maintenant ça a changé de jour pour faire les courses, c'est le mardi.
Il faut que la semaine commence le mardi alors. Hein.
Oui.
Sinon c'est compliqué pour le lundi forcément. Pardon.
On dort dans une chambre tout seul, ou dans la chambre on a aussi une douche, une salle de bain. On a tout à disposition dans cette chambre, alors que moi, par exemple, normalement, je dors en coactivité avec un autre qui s'appelle Stéphane. Et dans cette semaine d'autonomie, on est séparés. Et puis, on doit toute la journée essayer de se débrouiller tout seul, sauf le midi où on mange on mange le même plat que les autres. Mais voilà.
C'est un moment attendu, ces semaines où c'est difficile. Enfin, comment ça se passe du coup ? Est-ce que c'est des semaines, par exemple, vous Quentin, que les semaines d'autonomie, c'est quelque chose que vous attendez avec impatience pour pouvoir un petit peu vous défier vous-même, ou peut-être apprendre des choses, ou ça fait partie des choses vous attendez qu'on vous la désigne cette semaine pour la vivre ? Comment ça se passe ?
Moi, j'ai été content de la faire parce que ça m'a permis de voir les endroits où j'avais des difficultés et les endroits où j'avais assez de facilité à faire. Et puis...
Ça permet après peut-être de retravailler justement les zones de difficulté différemment sur les périodes qui suivent.
Oui.
Sandrine, vous êtes équipée d'un micro, peut-être vous ne voulez pas parler, c'est ça, vous nous faites non depuis tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligée, bien entendu, Sandrine. Donc, nous avons évoqué là les semaines d'autonomie, qui sont des semaines un peu particulières. Tout le monde, au bout d'un moment, passe par des semaines d'autonomie pour s'évaluer, pour se tester, pour souligner éventuellement ses forces et ses faiblesses.
Moi, j'avais fait, mais à Saint-Tré, dans les appartements. Je n'ai pas fait ça ici. Et au début, on a du mal parce qu'on a l'impression qu'on est en collectivité. On continue à faire les trucs comme si on était plusieurs, mais après, on s'y fait. Enfin, voilà. C'est comme le lit, si vous en pagaille, mais en fait, je suis tout seul, donc je peux le laisser comme ça si je veux. Il n'y a personne qui va passer derrière moi pour me dire « t'as pas fait ton lit ».
C'est l'avantage de ces semaines d'autonomie, c'est le lit qu'on peut ne pas faire éventuellement. Léopold, vous vouliez dire quelque chose, oui ?
Ça dépend parce que il y a souvent, on est aussi, il y a des jeunes qui peuvent se débrouiller tout seuls, comme Quentin ou Gilles, et il y en a qui peuvent pas se débrouiller tout seuls parce qu'on a besoin d'aide, comme si... comme c'est une personne qui nous aide, et nous, on est obligé de lui dire ce qu'on a besoin, par exemple.
Ça, c'est en lien avec le prérequis de mobilité, de possibilité, en tout cas physique également. Ça dépend d'où on en est, forcément.
C'est ça.
Très bien. Alors ensuite, après, alors on vient de parler de ces temps particuliers qui sont les semaines d'autonomie. On évoquait le rythme de journée. Alors en dehors de ces temps d'autonomie qui sont des temps un petit peu particuliers sur semaine d'autonomie, le matin, alors par exemple ce matin vous avez travaillé. Le midi, comment ça se passe ?
Ben déjà, notre journée commence à partir de 8h30.
D'accord.
Ça dépend des jours. Des fois, on a des pauses à 10, on a une pause à 10h15 ou 10h30.
10h15.
Ça va. L'heure varie en fonction des jours, en fait.
Par exemple, là, le mercredi après-midi, on n'a pas conditionnement.
D'accord.
Bah, avant, on allait à la piscine, mais là, l'emploi du temps, il a changé.
Et à la place du conditionnement, normalement, on fait théâtre le mercredi après-midi.
Ouais, ce qui est plutôt un bon remplacement, là, pour le coup.
Oui.
Ouais, c'est qu'on se le dise. Le midi, vous prenez les repas ensemble ?
Oui, bah, on prend le repas ensemble et notre pause déjeuner à 12h15.
Et là, ceux qui ne sont pas en projet professionnel, eux, pendant que nous, on est en conditionnement, des fois, ils font leur repas.
D'accord. Ça veut dire que c'est vous aussi qui préparez les repas ?
Oui.
Oui ?
Il y a des repas, oui. Sinon, le reste, ils sont en collectif.
D'accord. C'est des repas... tout près, il n'y a plus qu'à, quoi ?
Non.
Non ?
Non.
Pas tout le temps.
Ou c'est pas tout le temps. Ça dépend de ce qu'on mange.
Okay.
Très bien. On arrive ensuite à l'après-midi. Comment ça s'organise, une après-midi type ?
Ben, une après-midi type, on a pris notre pause déjeuner et après on reprend le conditionnement à 14h15 pour une pause à 15h30.
Et c'est pareil, il y a des après-midi où on ne fait pas tout le temps du conditionnement. Par exemple, le vendredi après-midi, on n'est plus là normalement.
Quand on fait la route pour aller à Gare.
Oui, c'est ça, il y en a qui retournent en famille ou ailleurs, quoi.
Voilà, c'est ça.
J'imagine qu'après une journée de travail, alors hormis le vendredi qui est une journée particulière, mais après une bonne journée de travail, j'imagine qu'il y a les temps de, entre guillemets, de loisirs, enfin les temps de vie, quoi, derrière tout ça. Quand votre journée de travail s'arrête, que se passe-t-il ici avant d'arriver jusqu'aux chambres ?
Mais on partage des moments ensemble, avant tout, parce qu'on est... ensemble tout le long de l'année et tout le long de la semaine. On essaye de partager le maximum de moments ensemble. Et
même les anniversaires, on
voilà,
essaie
c'est
de faire des petites fêtes. Enfin, pour garder les mêmes moments conviviaux comme une grande famille, quoi.
Donc oui, alors c'est-à-dire que le soir, après, il y a les activités, j'imagine, je sais pas moi, jeux de société... Non, des choses comme ça, des soirées peut-être organisées, des thématiques, des animations,
ça arrive.
C'est ça.
Ça arrive. Par exemple. Ou bien des fois on peut prendre des soirées à l'improviste, on dit qu'on n'avait pas prévu et on
des fois,
prévoit.
Il y en a une qui parle pas là, mais qui organise des trucs aussi.
Oui. J'imagine que vous faites référence à Guéda qui est au fond, non ?
Oui, elle en organise beaucoup.
Guéda organise des soirées.
Et c'est
soirées
elle, entre guillemets, qui fait vivre le groupe. Dans les soirées,
c'est
je parle. Dans les soirées, à peu près tout le monde.
Qui fait aussi monter, qui monte aussi des vidéos sur l'ordinateur.
Très bien, mais nous aurons l'occasion d'échanger avec Guéda sur notamment ces soirées et compagnie. Mais de toute façon, Guéda, depuis le début, n'a pas vraiment... Elle essaie d'éviter le micro, elle nous fait signe qu'elle n'a pas envie de parler, mais je suis sûr qu'elle a énormément de choses à raconter. C'est pas la première fois qu'on se croise, Guéda, et nous y reviendrons. Justement, je vous propose maintenant une pause musicale et nous reviendrons juste après sur la partie, sur la partie des interventions et des animations ludiques ou thérapeutiques à les savoir. Nous allons explorer ça juste après cette pause musicale.
Tu sais, c'est pas de la vidéo, hein, c'est de la...
Some things you can't explain away.
vous venez d'écouter The Clash et nous sommes toujours en direct, en live et en public, on peut le dire, du CEM, Centre d'éducation motrice de Verneuil-sur-Avre.
Buenas noches.
Tu parles espagnol?
Un poquito.
Mais tu crois que tu m'impressionnes? Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro.
Principe actif, le mix des cultures.
Voilà, et quelle transition, monsieur Pignon, parce que justement, nous recevons, on est autour de cette table, en fait, qui a matérialisé une espèce de plateau radio depuis le début de l'émission. Luis Martinez, bonjour.
Hola, ¿qué tal?
Mais muy bien. vous êtes intervenant théâtre, vous intervenez au CEM avec les résidents du CEM sur une activité théâtre. J'ai plein de questions qui n'ont pas d'ordre. La première, c'est qu'est-ce que vous y faites spécifiquement ici en termes de théâtre et pourquoi?
Alors, la première chose, pourquoi? Alors, pourquoi avec François qu'on a entendu tout à l'heure, donc on s'est rencontrés et puis on s'est dit, tiens, grâce à un spectacle que j'ai monté et que j'ai montré aux élèves, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas quelque chose? Et on a commencé à réfléchir là-dessus et on s'est dit, oui, on va travailler à partir de ça. Pourquoi? Tout d'abord pour l'envie de François et du CEM de leur apporter des outils qui nous servent à nous comédiens dans le théâtre pour qu'eux puissent s'en servir peut-être pour le reste de leur vie. Tout simplement, quand on a un entretien, mais qui peuvent vous servir à vous ou à les personnes qui nous sont en train de nous écouter. Donc, quand on est dans un entretien, par exemple, un entretien d'embauche, ou quand on parle à des collègues, quand on parle à haute voix, on parle pour un public. Donc, essayer de prendre ces outils et les adapter à leur spécificité individuelle. Et donc, à partir de là, on essaie de faire ça.
Alors, quels sont concrètement ce type d'outils? C'est quoi? C'est un travail sur la voix, sur la respiration? Enfin, moi, j'ai cette image du comédien qui, face à la glace, travaille la diction, la respiration, des choses comme ça. Alors, c'est peut-être une vision archaïque du comédien de théâtre, mais c'est ce genre de techniques qui sont employées.
Pour l'instant, on vient tout juste de commencer. On a fait une séance et donc on va y arriver. On va y arriver, mais déjà depuis la première séance, on a commencé à voir le regard qu'on a sur nous-mêmes et sur les autres. Et qu'est-ce qu'on fait quand on entre sur scène, quand on entre dans une pièce, quand on entre devant, on se met devant un futur employeur ou des gens qu'on ne connaît pas? Quelle est l'image qu'on veut donner de soi? Est-ce que tous les mouvements qu'on fait, est-ce qu'on les maîtrise? Est-ce qu'on fait des gestes? Est-ce qu'on a des tics? Est-ce qu'on se gratte la tête tout le temps? Moi, on me dit souvent que je me gratte la tête, par exemple. On essaie de se rendre compte, avec des exercices très simples sur le mouvement, de ce qu'on fait. Et donc, on essaie de trouver, pour l'instant, on essaie d'arriver à trouver le neutre. Et comme disait un grand pédagogue du théâtre, on va essayer d'abord d'arriver à créer une page blanche. Avec cette page blanche, après on pourra la barbouiller, mettre du rouge, du noir, un beau dessin, ou carrément la froisser, la jeter à la poubelle, et puis se dire, on fait une autre page blanche.
Mais effectivement, d'être neutre, c'est pas... Enfin, personne n'est neutre, de toute façon. Donc, comment être conscient de ce qu'on renvoie. Parce que finalement, on est en permanente représentation dans les rapports sociaux, dans les rapports humains. On essaie d'être à son avantage de manière générale. Et du coup, ça passe par prendre conscience déjà de ce qu'on renvoie. C'est ça, à travers le théâtre, qui va être travaillé.
Et donc, pour l'instant, on est sur ça. Et plus tard, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de travailler sur la voix, sur le fait de porter la voix, de se dire, on parle à des gens, il faut qu'on nous entende, il faut que notre message soit compris. Après, on va passer sur l'improvisation, certainement, pour savoir qu'est-ce qu'on va dire, comment on va dire, quel est le message. L'idée, elle est là. Donc, à partir de cette idée-là, comment on arrive à trouver les mots pour exprimer correctement son idée. Et c'est tout simplement en le faisant très souvent qu'on arrive à le faire. Moi, je n'ai pas des baguettes magiques, c'est juste la pratique. Et chacun va avancer à son rythme, comme moi je le fais à mon époque, quand je faisais des études de théâtre.
Et justement, ce que vous êtes en train de nous décrire pourrait aller pour chacun d'entre nous, pour M. Pignon, pour moi-même, pour un petit peu tout le monde.
Absolument.
Et à quel moment, où est-ce que cette notion de handicap rentre en ligne de compte, ou dans votre façon d'intervenir? Très clairement, on est sur un SEM, où les résidents sont porteurs de handicap. Est-ce que cette notion de handicap rentre en ligne de compte dans la façon d'aborder le théâtre, d'aborder votre intervention, d'adapter des choses?
Alors, pour moi, personnellement, je ne la prends pas en compte parce que chaque personne est différente. Je suis professeur de théâtre depuis plus de 15 ans et donc à chaque fois, j'essaie de m'adapter à chaque personne. J'ai travaillé avec des personnes âgées, de 80 ans. J'ai travaillé avec des jeunes, des tout petits, des 4 ans, donc de moyenne section, en maternelle. Et donc, avec eux, je prends exactement le même abord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Chacun, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'on est capable de faire chacun? Et à partir de là, comme avec tous mes élèves, on essaie de dépasser à chaque fois un tout petit peu plus ses limites. C'est ce que je leur disais la dernière fois. Quand on regarde, on voit l'Himalaya, on s'est dit, waouh, je ne pourrais pas faire un bond et monter là-haut. Par contre, si on fait un petit pas, et après un autre petit pas, et ainsi de suite, au bout d'un moment, on voit que peut-être on n'est pas monté tout en haut de l'Himalaya, qui était notre rêve peut-être, mais déjà on va voir là où on est monté qu'il y a une belle vue.
C'est bien dit, comme ça, très imagé, mais du coup très concret. Je vais m'adresser du coup à l'ensemble du groupe et plus particulièrement aux résidents. Voilà, Louis était en train de nous parler de l'activité théâtre. Vous l'avez, vous, fait cette séance théâtre?
Ben, moi, je sais que je l'ai faite. C'était une activité très intéressante et ça nous a permis de partager des moments ensemble. Et de voir de quoi on était capable.
Sur ces questions d'activité qui pourrait être considérée comme une activité de loisir pur, mais finalement derrière ce loisir pur, on sait bien que le SEM s'en sert comme outil, en fait, une activité de loisir ou une activité ludique, en tout cas, peut être aussi un bon outil de progression sur l'autonomie, sur sa perception, sur sa confiance, en tout cas sur un tas d'éléments. Vous pratiquez d'autres activités, notamment Émilie, pour avoir discuté hors antenne juste avant, vous pratiquez également d'autres activités ludiques, notamment du sport, la balnéo également. C'est important de pratiquer des activités autres que uniquement comme on disait tout à l'heure, votre travail,
le conditionnement.
On peut pas non plus faire que du conditionnement dans la vie, quoi. Quelle importance ça a, toutes ces activités que vous pratiquez? Est-ce que vous avez l'impression que vous en tirez des bénéfices ou au moins du plaisir? En termes de plaisir déjà, est-ce que vous y prenez du plaisir à pratiquer ces activités comme le théâtre, la balnéo?
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Vous
tout
faites à fait. Du sport aussi, du Qigong, c'est ça?
Oui, tout à fait, du Qigong.
Alors, ça, vous en faites depuis longtemps, du Qigong?
J'ai démarré, je m'en souviens plus très bien, mais j'en fais.
C'est ça l'essentiel, hein, savoir depuis quand, ça c'est une autre question. Qu'est-ce que vous trouvez dans ces activités? Comment vous vous y retrouvez? Qu'est-ce que vous y trouvez comme intérêt à ces activités?
Ça m'aide beaucoup.
Par rapport à quoi en particulier? Ou est-ce que c'est juste une sensation générale?
Par rapport au stress.
Au stress?
Et à l'angoisse.
Et donc, ces activités sportives, ces activités de loisirs, ça vous aide sur cette gestion du stress?
Oui, et surtout le sommeil.
Et le sommeil? C'est pas rien quand ça gère le stress, l'angoisse et le sommeil, c'est de sacrés bénéfices quand même. Je vais peut-être me mettre au théâtre ou au Qigong,
Ça permet de penser à autre chose que le travail et le conditionnement, de couper court, de voir qu'il y a des limites, il y a un temps pour ça et un temps pour ça.
Gilles? Non, je voyais. Non, pardon, vous preniez pas la parole. C'est sur les activités. Non, pardon, je vous voyais vous approcher du micro. Je vous dis, il veut prendre la parole. Donc, je le sollicite. Sur toutes ces activités, donc il y a le théâtre, ça, vous le faites de manière collective, c'est ça?
Oui, le théâtre, on le fait de manière collective.
La balnéo, c'est quoi? C'est individuel?
La balnéothérapie, en fait, c'est un petit groupe avec un éducateur qui nous accompagne et le maître nageur qui est avec nous dans l'eau.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont faites de manière collective ou semi-collective?
Il y a le sport aussi qui est fait de manière collective.
Alors quel type de sport? C'est quoi? C'est multisport?
C'est... On fait un peu de tout en sport.
C'est de la mise en situation.
C'est de la mise en situation dans la vie de tous les jours. Et notre... Et la prof de sport est aussi porteur d'handicap. Ça montre aussi que le handicap, il est... Ça peut être surmonté malgré les difficultés et qu'on y arrive, même si on est en situation de handicap.
Oui, j'imagine que vous ne devez pas être insensible au fait qu'effectivement la prof de sport soit elle-même porteuse de handicap. Est-ce que du coup, c'est un autre regard qu'elle a sur cette pratique du sport ou, parce que j'imagine qu'en fonction des pratiquants, le sport doit être un minimum adapté, non? En fonction là, pour tout décrire aux auditeurs, certaines personnes dans la salle sont en fauteuil. Donc j'imagine qu'il y a des adaptations nécessaires.
Oui.
Elle nous divise en groupes.
Hop là, bien dans le micro, s'il
vous
plaît.
Elle nous divise en deux groupes, un groupe de marcheurs et un groupe de fauteuils. Et malgré ça, elle arrive à nous faire ce qu'il faut. Par exemple, elle nous fait des mises en situation quand on est sur la route, quand il y a des pentes, comment on réagit, quand il y a des marches aussi, quand on slalome aussi, on fait des mises en situation. Et malgré ça, ça nous aide quand même parce qu'on travaille sur l'équilibre, parce qu'on a tous des problèmes. On a tous des problèmes et même quand on lui parle, elle va nous aider, elle va essayer de mettre la chose en pratique pour voir comment on peut surmonter.
Et j'imagine qu'à travers ça, c'est aussi bien des techniques qui peuvent aider comme des répétitions de mouvements pour mieux les intégrer. Assez, voilà, j'imagine qu'il y a ces deux aspects. Ouais. Très bien. Sur les activités, Léopold, on ne vous a pas entendu sur ces activités. Vous les pratiquez aussi, j'imagine, le sport, le théâtre,
oui,
balnéo peut-être.
L'anglais. Balnéo.
L'anglais également.
J'ai pris par mes propres moyens, on va dire, des cours d'anglais. Parce que à la base, j'avais quelqu'un qui était à l'aigle. Qui venait tous les jours, mais malgré quelques petits problèmes, elle n'a pas pu continuer ses cours. Alors maintenant, j'en ai pris une autre. Depuis que je suis handicapé, pour moi, c'est un handicap qui est un petit peu trop lourd. Ce que je veux dire, moi j'ai aussi des problèmes de vue. Alors quand je sors dans la rue ou quand je suis dans un endroit qui a des obstacles, je ne les vois pas forcément.
Mais du coup, à travers cette pratique du sport et notamment ce qu'expliquait il y a quelques secondes Diakoumba sur la mise en situation, ça fait partie des trucs qui aident, j'imagine, non?
Oui, mais c'est...
Ça reste quand même difficile à appréhender.
Exact.
Je vous propose tout de suite, justement, d'écouter un court extrait sonore. Monsieur Pignon, tout à l'heure, a enregistré lorsque vous étiez sur le cours d'anglais. Je trouve que c'est parfait pour illustrer les propos que nous venons d'avoir. Monsieur Pignon.
Juste savoir comment ça se passe un petit peu et ce que tu travailles sur ce cours d'anglais. J'imagine de l'anglais, mais comment tu le fais?
Avec l'ordinateur.
D'accord.
Et aussi... des choses pour travailler des, on va pas dire des logiciels, mais écrit gros et puis
aussi de avec de l'aide. Je sais pas. On a fait aussi des. On a appris les couleurs, par exemple, et les nombres, et puis voilà. Après, on est plus. Comme moi, j'ai des problèmes de vue, j'ai du mal à voir les lettres petites. Il faut que tout soit grossi.
Donc ouais, c'est les et tu apprends les chiffres, les couleurs, c'est ça?
Oui.
Ok. Autre chose?
Non.
Très bien. Bon, alors j'embête pas plus. Merci.
Voilà, Monsieur Pignon qui se fait une spécialité de venir interférer dans ce qui se passe. Et notamment là, c'était le cours d'anglais avec Léopold. Voilà, c'était pour illustrer les propos que nous tenions. Je voulais, dans le cadre des activités, interpeller rapidement Guéda. Tout à l'heure, Guéda, dans l'organisation de la vie ici au SEM, vos collègues ont dit très clairement l'animation de soirée, c'est Guéda, qu'on se le dise, hein, les auditeurs l'ont entendu tout comme moi. Donc je voulais revenir tout de suite un petit peu auprès de vous par rapport à ces organisations de soirée. A priori, c'est vous l'ambianceuse ici au CEM. À quoi ressemble le type de soirée que vous organisez, Guéda?
Alors moi, j'organise des soirées, oui.
Des soirées?
Oui.
Oui, ah oui, oui, la console de jeu, oui. Bien dans le micro, s'il vous plaît, Guéda, oui.
Et donc, je mets une feuille aux inscriptions de soirée. Et après, on voit avec Giacomba les jeux qu'on choisit et quel groupe on fait en fonction des handicaps de tout le monde.
Très bien. Du coup, alors il y a les soirées, oui. Est-ce que vous organisez d'autres types de soirées? Parce que quand on a parlé d'ambiance, tout le monde vous a regardé, hein, Guéda.
Il y a les soirées créatives aussi.
Alors, en quoi ça consiste?
Ça consiste à créer ce qu'on veut, quoi. Si on veut créer un tableau, on le crée. On a un budget pour ça, justement. Et donc, si on veut créer, bah, on crée sans soirée, justement. Il y a les soirées jeux de société aussi. Donc, un jeu en soirée, on propose à ceux qui veulent, ils viennent. Ceux qui ne veulent pas, bah, ils ne font pas.
On sent que voilà que ça se dégage de vous. Enfin, vous êtes souriante depuis le démarrage. C'est quoi? C'est l'envie de proposer des animations aux camarades, aux collègues. C'est l'envie de faire des choses. Pour la petite histoire. Nous sommes déjà croisés avant de venir sur le CEM, justement dans des lieux d'animation, dans des lieux de culture. C'est quoi? C'est cette envie voilà, d'animer, de participer à des choses qui fait que vous organisez des soirées?
Moi, j'aime bien jouer, j'aime bien m'éclater, j'aime bien faire un peu la folle. Donc voilà, donc j'essaie de donner ça à tout le monde et voilà.
Oui, c'est ça. De toute façon, quand on fait le fou, c'est bien d'avoir des camarades pour faire les fous avec, quoi. Donc autant emmener les autres dans le jeu. C'est exactement ça. Très bien, merci beaucoup, Guéda. Le temps avance, on est pris par le temps. Je vous propose tout de suite, Monsieur Pignon, d'envoyer l'enregistrement tout à l'heure lorsque nous sommes arrivés pour nous installer avec le studio. Ça s'agitait en cuisine. Je vous propose tout de suite d'écouter ce qui se passait en cuisine lorsque nous sommes arrivés cet après-midi.
Bonjour, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là?
Une verrine.
Une verrine? C'est quoi une verrine? Comment on fait ça?
Alors là, c'est des fruits mixés avec 4 yaourts. On va faire les couleurs de nos drapeaux de nos pays, vert et rouge. Et donc du coup, bah, le rouge c'est la fraise, le jaune c'est de la mangue et le vert sera du kiwi.
D'accord, donc il y a fraise, mangue, kiwi, c'est ça les fruits qu'il y a dedans? C'est ça les fruits? Il n'y a rien d'autre et après c'est du yaourt, c'est ça?
C'est du yaourt ou du lait de coco?
Et alors, c'est comment on fait? On mixe les fruits d'abord, et puis et on mélange avec le yaourt, c'est ça?
On suit une recette.
Ouais, vaut mieux, sinon il peut y avoir des accidents. et du coup, cet atelier cuisine, ça a lieu...
Par mois.
Un mercredi par mois?
Voilà.
Quelles autres recettes vous avez déjà faites, si vous vous souvenez?
Bah moi, pour l'instant, j'ai fait que le table. Donc, j'ai fait que ce truc-là. Après, il y a d'autres groupes qui se forment, en fait. Là, moi, mon groupe, c'est moi, de la combat souvent. Et après, il y a d'autres groupes qui se font un après-midi par mois.
D'accord. Je vais prendre un petit peu de son de ce qui peut faire du bruit, éventuellement.
Ah, on peut faire du bruit, aussi.
Non, mais autant que ce soit naturel.
De toute façon, on va faire du bruit.
Ah mais là c'est pas qu'une verrine, il y a d'autres choses qui se préparent. Qu'est-ce qui se prépare par ici?
C'est un plat africain en fait.
C'est quoi là le nom et la recette du
c'est
coup?
Le tchéboudjen. Le tchéboudjen en fait c'est un riz jaune et djen c'est le poisson qui va avec. D'accord. Il y en a qui le font avec du poulet mais normalement c'est avec du poisson. C'est un riz jaune. Donc là on est en train de mettre le riz. D'abord on fait cuire le riz à la vapeur. Et ensuite, eh ben, il faudra le faire cuire dans l'eau, mais dans l'eau des légumes qui vont avec.
Ah, c'est ça la technique.
Oui, voilà. Parce qu'il y a des légumes, il y a beaucoup de légumes. Il y a de l'aubergine, la carotte, il y a du manioc, il y en a plusieurs. Hein. Quand ça va mijoter, vous pouvez faire écouter. Si vous
je veux bien.
Ouais.
Et c'est quoi comme poisson?
Là, c'était de la dorade. Mais sinon, normalement, c'est du tilapia ou du mérou.
D'accord, donc là en fait, entre la verrine et ce plat-là, il y a sucré salé, c'est ça l'idée
quoi. C'est ça, il y a le plat dessert.
Ouais.
Comme c'est déjà bien consistant, et en dessert on fait des frites.
Ouais, faut que ce soit un peu léger aussi à un moment.
C'est ça, faut que ce soit équilibré. Il y a le diététicien dans la salle. Hein.
Ah oui, il faut faire attention. Hein. Et alors, qui c'est qui décide à l'avance des plats et des menus?
Soit on fait des propositions, soit c'est le diététicien qui fait des propositions. Et là, entre autres, nous, on avait déjà fait ça l'année dernière, et il nous a proposé de le refaire cette année. Et du coup, on va le refaire.
Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter que j'aurais oublié de poser comme question?
Même avec tous les plats, les repas qu'on fait, c'est dans une thématique de faire des repas équilibrés. Donc même si on veut faire un plat qui est gras, on va essayer de modifier certaines choses pour qu'il reste équilibré. Par exemple, là on nous a dit qu'il fallait 50 cl d'eau, on en a mis que la moitié, ça suffisait amplement.
D'accord.
L'atelier là qui est à l'heure actuelle ici, mais hier Diacomba est donc allé faire les courses, est allé acheter le poisson et tout ça. Donc il y a aussi un atelier qui concerne les achats, les courses, avec un petit peu la gestion du budget. Ils ont un budget, ils doivent gérer pour organiser tout cet atelier.
Et pour faire les courses, ils vont où? Ils vont au marché, au supermarché, comment ça se passe?
Alors hier, Vignolia les a accompagnés sur Évreux, à la Madeleine, parce qu'il y a des boutiques où...
Il y a des boutiques exotiques qui vendent des choses concernant ce qu'on veut préparer aujourd'hui. Par exemple, du tchèp, on ne peut pas trouver des ingrédients à Vanaï. Donc, on est obligé de trouver un magasin exotique pour trouver tout ce qu'on a besoin pour préparer notre repas.
C'est ça, il n'y a pas forcément de magasin d'épices ou ce genre de choses sur Verneuil.
C'est le repas exotique. Ouais. Parce que c'est le repas exotique.
Donc du coup, en plus, c'est cool, ça fait une sortie sur Évreux. On voit un...
Ah oui, parce que j'avais l'impression que c'était chez moi à Saint-Denis, mais en Normandie. Ah ouais, c'est même le marché, il est grand comme là-bas. Ouais. Bah, si vous voulez, ça bouge, vous pouvez...
Ouais, je vais prendre un peu de son.
Ouais. On sent bien les odeurs.
Alors moi, avec mon micro, je les sens pas, mais oui, avec mon nez, ouais.
Ça serait une nouvelle fonction à l'odeur.
C'est ça, ils ont pas encore inventé ça, le micro qui sent, le micro renifleur.
C'est ça.
Ça va bien, mais en vrai, ça va les voir.
Oui, j'arrive.
On
est
par banane.
Très bien. Bon, bah super.
Oui, super, Monsieur Pignon. C'est une de vos spécialités, comme on le disait, d'aller venir perturber le bon déroulement des choses. Vous êtes ce petit grain de sable dans l'engrenage qui sait si bien le faire. Nous échangeons depuis maintenant presque une heure autour du CEM de Verneuil-sur-Avre et principalement, pardon, avec les résidents. Nous le disions, c'est l'objectif du CEM, c'est amener un maximum d'autonomie à l'insertion sociale et professionnelle. Et justement, avant de terminer cette émission, nous souhaitions échanger rapidement justement avec Diakoumba qui, alors Diakoumba, vous, vous êtes au SEM de Verneuil, vous avez fait tout ce parcours, vous participez aux activités, vous avez déjà échangé d'ailleurs depuis le début de cette émission micro avec nous, et vous, pour le coup, vous avez un contrat de travail, donc ça s'est concrétisé, ce projet professionnel, on a un contrat de travail qui démarre début mai, c'est ça,
oui,
si
c'est ça.
Nous avons bien suivi.
Ouais.
Vous pouvez nous parler un petit peu de comment s'est passée la procédure pour arriver jusqu'à à cet emploi et puis nous parler un petit peu de cet emploi.
Okay. Bah moi déjà, il faut savoir que je suis rentrée au SEM il y a 2 ans. C'est ma 3e année là. Donc, ça a été travaillé. Donc on n'est pas là pour rien faire. J'ai fait plusieurs stages parce que j'étais pas trop sûre déjà de ce que je voulais faire. Et on fait plusieurs stages pour savoir où on en est, pour savoir si on veut vraiment faire ça, être sûr. Et pour les dossiers MDPH aussi, parce que ça aussi, il y a de l'attente dedans. Et là, je suis tombée sur un stage de couture. Parce qu'avant de rentrer au SAI, j'étais en...
Alors là, ça fait beaucoup d'abréviations. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider sur les abréviations. Maud peut-être, SAI...
Service d'aide à l'insertion.
Voilà, merci.
J'ai eu mon bac, brevet d'aptitude, quelque chose comme ça.
Ouais, ça va.
en couture, métier de la mode. Et après, moi, je ne savais pas si je voulais continuer dans la couture ou dans la cuisine. Et finalement, j'ai continué à la couture. Et j'ai trouvé un stage à Ménilmontant, à Paris. C'est à une demi-heure de chez moi, du vrai chez moi, à Saint-Denis. Et ils m'ont proposé, du coup, une place. Et j'ai accepté, parce que c'est vraiment ce que je veux faire. Voilà, quoi.
Et donc, voilà, ça se concrétise, oui, vous avez un contrat. Alors, c'est en milieu protégé, c'est ça que vous
disiez? Oui, en ESAT. C'est un établissement, service d'aide au travail. Et j'avais fait déjà plusieurs stages. Et à travers ces stages, j'ai travaillé mon comportement, ma façon d'être. Parce que je sais que j'ai pas été très... voilà. Hein. et ces 3 années, elles ont pas servi à rien. Elles ont servi aussi à travailler mon comportement, la façon dont on me voit. Parce que peut-être, moi, au début, je faisais les choses, mais je voyais pas forcément comme ça. Et à force d'en parler et tout ça, on a pu travailler dessus, sur ce qui allait pas, sur ce qui allait, regarder les bilans. Et du coup, bah, le dernier stage, c'est là qu'on voit les résultats, quoi.
Très bien. Et donc, du coup, ça débouche début mai. Donc, vous commencez voilà. Donc, en tant que couturière, c'est ça?
C'est ça.
Voilà. Bah, c'est plutôt cool, ça, de se dire qu'au devant, voilà, ça débouche sur un emploi derrière.
Que notre diplôme... va servir autre chose que derrière un cadre.
Ouais, ça décore très joliment un salon tout de même, un diplôme dans un cadre, non?
Oui.
Mais effectivement, si ça permet de travailler, c'est encore mieux.
Oui.
Très bien, bah voilà, c'était important, je trouvais qu'on revienne 2 secondes sur un exemple très concret de réussite là, dans les quelques semaines, mois qui viennent, et notamment bah voilà, sur votre parcours, Diakoumba. Je propose tout de suite, parce que Michel de Soul Connection va être sympa, il va nous laisser 5 petites minutes afin que nous allions jusqu'au bout de tous nos échanges, je vous propose que tout de suite nous écoutions l'enregistrement que Monsieur Pignon a fait tout à l'heure auprès de Marguerite, ergothérapeute sur le SEM de Verneuil-sur-Avre. Pareil, vous avez été l'embêter parce qu'elle devait partir pour prendre son train, c'est ça? Vous l'avez mis en retard.
Et nous sommes avec Marguerite. Marguerite, qu'est-ce que tu fais ici au SEM de Verneuil?
Je suis ergothérapeute.
Ergothérapeute, mais qu'est-ce que c'est?
C'est un travail pour l'autonomie et l'indépendance des personnes en situation de handicap.
Et alors, comment on met en place ce travail concrètement? Comment on travaille, avec quel outil, et comment on arrive à cette autonomie?
Soit avec de la rééducation ou sinon avec de la réadaptation. Donc ici, c'est plus de la réadaptation. Donc on travaille beaucoup avec des aides techniques en essayant de mettre d'autres choses en place pour pouvoir être autonome malgré le handicap.
Alors ça passe par quoi? Ce sont des exercices, est-ce qu'il y a du matériel ou des outils en particulier?
Bah, ça peut être de l'aménagement de l'environnement ou de l'essai ou de l'achat des techniques. Donc les techniques, c'est par exemple les fauteuils roulants ou du petit matériel de cuisine ou des choses comme ça. Voilà, et après on fait aussi des exercices pour savoir s'organiser, mettre des choses en place.
Et du coup tu interviens tous les jours ici au SEM, comment ça se passe un petit peu, c'est quoi ton rythme de travail ici?
J'interviens 2 fois par semaine ici, 2 jours par semaine.
D'accord, et du coup quand tu parles d'aménagement, de petits objets, c'est des choses que... Comment, pour qu'on comprenne un petit peu, comment vous mettez en place ça, on parlait des fauteuils, on parlait du petit matériel de cuisine, c'est de l'investissement pour la structure, vous allez les acheter, vous évaluez les besoins de chacun, chacune, enfin voilà un petit peu comment ça fonctionne.
Ça dépend, certains c'est pour du matériel personnel, donc là c'est eux qui achètent, donc il y a des remboursements avec la sécurité sociale, des choses comme ça en fonction du matériel, et sinon si c'est pour ici, bah, c'est la structure qui achète pour les jeunes.
Voilà. Très bien, je vais te libérer. Est-ce qu'on avait oublié quelque chose d'essentiel ?
Moi, je pense que c'est bon.
Très bien. Voilà. Eh ben, merci Marguerite. Merci. Bon train.
Voilà, l'histoire ne raconte pas si Marguerite a réussi à avoir son train ou pas. Sûrement que nous aurons la réponse au prochain épisode. Voilà, nous étions en direct, en live et en public du SEM de Verneuil-sur-Avre. Maud, on ne vous a pas encore entendu depuis ce début d'émission. Est-ce que globalement, voilà, on aurait abordé tous les thèmes qui vous paraissaient à vos yeux essentiels à aborder sur cette première émission ?
Bien, écoutez, oui, je pense que tout a été dit. J'ai retrouvé nos jeunes très remarquables. J'ai senti nos jeunes très remarquables. Bravo à vous, les jeunes. Félicitations de votre participation. Oui, tout a été dit. Donc, je vais maintenant vous remercier, Jean et Timothée, d'être venus partager ce moment avec nous. C'était un grand plaisir, une grande découverte pour nous tous.
Nous risquons de repartager prochainement.
Hein. Eh bien, écoutez, je l'espère. On va trouver d'autres sujets. Et effectivement, nous aimerions bien continuer ensemble à partager de bons moments.
Très bien. Alors, du côté des jeunes résidents, nous avions autour des micros pour cette émission Gilles, Léopold, Sandrine, Quentin, Diakoumba, Émilie, Guéda, Sandrine. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un, Maud ? C'était la liste que j'avais moi sous les
tout
yeux.
Tout à fait, c'est tout, c'est bon, c'est parfait.
Très bien, dans les intervenants et notamment l'intervenant théâtre, nous avions Luis Martinez qui était avec nous également. Puis je vous propose de présenter l'équipe. Vous la connaissez mieux que nous, l'équipe encadrante qui était ici aujourd'hui. Donc il y avait François.
Oui, il y avait François, notre chef de service. Vinolia, Laura.
Alors bien dans le micro, hein, toujours.
Pardon. Vinolia, Laura, Philippe, Patrick.
Voilà. Et puis vous, Maud, qui avez participé à cette émission.
Et Nathalie, j'ai oublié Nathalie, elle n'est plus là, donc Nathalie était présente aussi, on l'a vu passer plusieurs fois.
Très bien, bah merci à vous pour cet accueil au CEM de Verneuil-sur-Avre. Cette émission, bien entendu, sera retrouvable en podcast sur le site de Principe Active, sera distribuée sous le manteau autant que vous voudrez et sûrement reprogrammée en rediffusion d'ici peu. Merci à Michel de Soul Connection de nous avoir offert de force ces 5 minutes. Merci beaucoup à Michel de Soul Connection. Prochain rendez-vous mercredi pour les émissions des quartiers.
Les émissions des quartiers.
C'était impressionnant quand même.